France Culture, question du soir, Matteo Caranta.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc dans Question du soir consacrée ce soir au défilé militaire du 14 juillet. C'est une institution, l'un de ces rendez-vous où la République déploie toute sa puissance avec ses symboles, ses hymnes, ses drapeaux et ses forces armées. Le défilé du 14 juillet a, comme chaque année, fait la démonstration spectaculaire du savoir-faire technique des armées françaises en la matière. Un défilé à forte connotation politique au lendemain des déclarations d'Emmanuel Macron sur leur venue des prédateurs. Un défilé en tenue de combat censé refléter la gravité des menaces pesant sur la sécurité du continent européen. Mais il y a un mois, un autre défilé s'est tenu, lui, à Washington. Une drôle de parade, très contestée, directement inspirée par le 14 juillet. Pourtant, ce défilé-là n'a pas connu le même succès qu'en France. On y a même vu un nouveau glissement autoritaire de Donald Trump. Quand la première puissance armée du monde fait défiler ses militaires, cela ne nous plaît pas. À partir de ce constat, nous avons décidé, à question du soir, de remonter le fil, d'interroger l'histoire. Pourquoi défilons-nous encore en France? Que charrie l'histoire du 14 juillet dans ses bagages? S'agit-il d'une exception démocratique et serait-il possible de le réformer? Pour en parler avec nous, trois invités. Ludivine Bantini, historienne au groupe de recherche d'histoire de l'Université de Rouen. Elle a publié « La plus belle avenue du monde », une histoire sociale et politique des Champs-Élysées. C'était à la découverte en 2020. Également avec nous, D'Alisson, historien, professeur des universités émérites de l'université de Rouen, ayant travaillé sur la mémoire de la guerre et sur les fêtes nationales depuis 1789, il a publié « Célébrer la nation, les fêtes nationales en France » de 1789 à nos jours, c'était au Nouveau Monde d'édition. Et enfin, Jean-Luc Cottard, colonel à la retraite, chercheur en histoire et membre du comité de rédaction de la revue Inflexion. L'émission a été enregistrée il y a quelques jours, avant les annonces d'Emmanuel Macron. Bonne écoute sur France Culture.
Merci à notre merveilleuse Première Dame et surtout merci à la plus grande, la plus féroce et la plus courageuse force combattante qui ait jamais foulé le sol de cette terre, l'armée des États-Unis. Merci beaucoup. Parce que l'armée garantit notre liberté, vous nous rendez forts et ce soir, vous avez rendu tous les Américains très fiers.
La voiture, la nouvelle DS8 que vous apercevez dans la cour de l'Élysée du président de la République et qui va s'élancer dans quelques instants avec le président de la République et Brigitte Macron pour arriver à l'Arc de Triomphe.
Du bleu, du blanc et du rouge. C'est vrai qu'on est habitué à ces images et c'est donc ça qui ouvre.
C'est toujours beaucoup d'émotion, cette patrouille qui incarne vraiment les valeurs de respect, d'intégrité, de service et surtout d'excellence, le symbole de la nation, ambassadrice de l'armée de l'espace.
Alors, avant de parler de notre 14 juillet, de ses symboles, de son histoire, de ses limites aussi, un mot, si vous le voulez bien, sur le défilé américain voulu par Donald Trump, un défilé qui est tombé opportunément le jour de son anniversaire, une parade très critiquée. Et ce qui nous a surpris à question du soir, et c'est en partie ce qui nous a motivé à proposer cette émission aujourd'hui, c'est que les railleries, les critiques françaises sur la drôle de parade, le défilé de Donald Trump, n'étaient pas accompagnées d'avis critiques sur notre propre défilé, dont la force avait pourtant été à l'origine de la fascination de Trump pour la parade et sa volonté d'organiser une parade à Washington. Alors, petit tour de table, comment expliquez-vous cette critique d'une part, silence de l'autre? D'abord, Rémi D'Alisson.
La chose est assez simple, d'après moi. S'il avait vraiment voulu s'inspirer de notre défilé, M. Trump aurait dû le faire le 4 juillet. Là, ça aurait eu du sens. Mais uniquement pour l'armée et le jour de son anniversaire, ça n'a aucun sens par rapport à ce que doit être la symbolique d'un rituel comme le défilé du 14 juillet.
C'est cela qui explique le fait qu'il y a que ce miroir transatlantique n'ait pas suscité de réflexion sur notre 14 juillet, le 19
En tout cas, c'est dommage. Et en effet, vous avez raison, il faudrait vraiment s'interroger, parce que c'est bien lors de sa visite en 2017, lorsqu'il avait assisté à ce défilé militaire, que Donald Trump, qui a été fasciné par le défilé militaire français, a voulu le reproduire, sinon à l'identique, du moins en y puisant sa source d'inspiration. Donc, je ne sais pas si ça doit être un objet de fierté pour la France ou d'interrogation grave, parce que, comme vous l'avez dit, ça symbolise très clairement chez lui un glissement autoritaire. Il dit que tous les pays célèbrent leur victoire, mais pas du tout de la même manière. Par exemple, son voisin, le Grand Canada, qui d'ailleurs s'oppose fermement à cette politique autoritaire, eh bien, ne célèbre absolument pas par un défilé militaire ses fêtes nationales.
Jean-Luc Cotin ?
Alors, moi, je remarque que l'impression qui a été donnée par le défilé, c'est que les soldats traînaient des pieds. Il traînait des pieds, donc on avait l'impression que la troupe n'était pas une troupe guerrière, qu'elle n'était pas prête, en fait, à partir au combat, qu'il y avait une forme de contradiction avec ce que disait le président Trump dans les mots que nous avons entendus en préambule.
Parce que...
Ensuite, deuxième temps, quand on connaît l'armée américaine, on sait que cette armée est une armée particulièrement efficace, et on sait que lorsqu'elle se met en tête de faire quelque chose, elle le fait remarquablement bien. Et on sait qu'il existe des unités américaines qui sont spécialisées dans le défilé, notamment pour rendre les honneurs au cimetière national d'Arlington, où sont enterrées les dépouilles des soldats morts à l'étranger. Eh bien, on voit qu'il y a une véritable grande performance. Ensuite, troisième temps... Ça permet aussi de s'interroger sur l'image que l'armée donne au public. Et quatrième temps, s'interroger sur le problème que pose l'idée de vouloir copier quelque chose dans un pays et transposer quelque chose qui a un sens culturellement à un endroit et qui n'a peut-être pas le même sens à un autre.
Vous dites les troupes n'avaient pas l'air d'être prêtes à partir au combat. C'est cela le rôle d'abord d'un défilé militaire, d'une parade, Jean-Luc Cotard, c'est celui de se préparer au combat ?
Oui, au départ, le défilé étant dans une cérémonie militaire le moment de la clôture, et étant précédé par un moment plutôt statique qu'on appelle une prise d'armes, et qui est plutôt linéaire, eh bien, ce sont en fait des moments qui permettent de s'entraîner au combat, mais pas au combat d'aujourd'hui, au combat du XVIIe et XVIIIe siècle. Être en ligne face à un ennemi, c'est l'empêcher de venir sur une position. Être en colonne et partir à l'assaut en colonne, c'est être offensif. Lorsqu'on est capable de manœuvrer des armes statiquement ou de façon mobile et de se déplacer sur une surface comme un champ de Mars, le champ de Mars étant l'endroit où les soldats s'entraînent, eh bien, c'est montrer qu'on est capable de manœuvrer, qu'on est capable de partir au combat. Et donc, en fait, la prise d'armes et le défilé sont des moyens de contrôler l'efficacité opérationnelle d'une troupe. Et l'efficacité opérationnelle de cette troupe est contrôlée par celle qui la commande ou celle qui la paye. Et aujourd'hui, celle qui la commande, c'est le président de la République, mais il a des représentants, c'est chaque élément de la hiérarchie. De la hiérarchie militaire.
Rémi Dalisson, vous disiez non de la tête. Alors, en écoutant Jean-Luc Cotard.
C'est pas uniquement ça. C'est-à-dire que si on reprend l'origine du 14 juillet, le défilé, la revue, c'est d'abord montrer que l'armée se soumet à la République. Que l'autorité sur l'armée, c'est la République. C'est le sens du premier défilé de 1880 et de la remise des drapeaux par les autorités civiles, Grévy, Gambetta, au régiment. Donc c'est d'abord ça. Alors, dans un deuxième temps, dans les années 1880, c'est aussi préparer la revanche, on est bien d'accord. Montrer qu'on a une armée forte qui va reprendre les provinces
perdues. La revanche, quoi, il faut préciser.
Oui, reprendre les provinces perdues pendant la guerre franco-prussienne. Mais c'est d'abord un acte de soumission au pouvoir civil.
Alors, Ludivine Bontigny, acte de soumission au pouvoir civil, héritage révolutionnaire, moyen pratique de contrôle, de revue des armées.
Oui, il y a toujours eu une contestation de cet entremêlement entre fête nationale célébrant d'une part le 14 juillet 1789, donc la prise de la Bastille, révolutionnaire ô combien, et d'autre part le 14 juillet 1790, donc la fête de la Fédération qui visait à l'unité nationale.
Et officiellement, c'est cela que l'on célèbre, hein, c'est la fête de la Fédération.
1880, et non pas la... Alors, il y a eu la synthèse, la synthèse des deux lors du choix de 1880.
Là-dessus, très rapidement, Rémi Dalisson.
Pas du tout, et ma collègue Jacqueline Alouette est d'accord. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille.
Non, alors,
on a dit, oui, c'est aussi la fédération qui s'arrangeait tout le monde.
Bref, lors du débat de 1880, il y a bien eu cette hésitation. D'ailleurs, il y a plein de dates qui sortaient du chapeau.
Il aurait pu
y
avoir d'autres dates. Le 4 août, par exemple, l'abolition des privilèges.
Ce que je disais, c'était que, en fait, ça a été conçu comme une synthèse entre ces deux dates, ces deux 14 juillet, une journée d'assaut révolutionnaire lors de la prise de la Bastille, et puis d'unité nationale, la fête de la fédération, qui n'était évidemment pas républicaine, puisqu'on était encore sous la monarchie. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le 19e siècle, il y a eu très tôt, dans une partie de ce qu'on peut appeler le mouvement ouvrier, qui n'est pas moins républicain pour autant, mais qui se reconnaît beaucoup moins dans cette république considérée comme une république d'ordre, comme une république bourgeoise, comme une république aussi capitaliste, comme le diront beaucoup, beaucoup de ces représentantes et représentants du mouvement ouvrier. C'est vraiment l'idée que cette armée, c'est la gardienne de l'ordre social, c'est la gardienne aussi d'un certain colonialisme, d'un certain militarisme. C'est le cas, par exemple, de certaines féministes des années 1880. Celle qui a forgé le terme de féminisme, par exemple, Hubertine Auclert, elle a forgé ce terme en 1882. C'est la première manifestation féministe en France, c'est le 14 juillet 1881. Et c'est à la Bastille. Hein, et elle dénonce un état masculiniste. Donc elle dénonce aussi les parades de Longchamp, la revue de Longchamp, comme justement militarisée, virile, démonstration de force, et de surcroît, une république qui laisse de côté une partie de cette nation, à savoir les femmes. Mais il y a aussi ce mouvement ouvrier antimilitariste.
L'antimilitarisme. Alors c'est un peu contradictoire avec ce que venait de nous dire Rémi Dalvonson. Pardonnez-moi de vous interrompre. C'est-à-dire que c'est à la fois la soumission de l'armée par la République. On pourrait penser du coup que c'est de gauche, entre guillemets, dans le contexte des années 1880, puisque la République, à ce moment-là, est défendue par les voix de gauche.
Parce qu'il y a plusieurs gauches, tout simplement.
Et en même temps, il y a une gauche plus révolutionnaire qui, elle, ne consent pas à cette mise en scène républicaine.
Il y a eu entre-temps, par exemple, la Commune de Paris, le massacre de la Semaine sanglante en mai 1871, et donc un rejet de tous les symboles d'un patriotisme, voire d'un nationalisme, quand bien même il se dirait républicain, puisque en fait c'est aussi une république qui avait brisé la Commune de Paris, comme elle avait brisé des insurrections ouvrières à l'instar de juin 1848. Donc il y a une partie de la gauche qui est une gauche socialiste, hein, le mouvement socialiste, le mouvement ouvrier, le mouvement anarchiste, qui est antimilitariste, qui considère que, de surcroît avec l'accélération donnée à cette tendance au moment de l'affaire Dreyfus, que l'armée ne saurait être une arche sainte qu'on protège à toute force au nom de la raison d'État. Et donc, il y a, par exemple, cette revue La Guerre sociale, animée notamment par Gustave Hervé, qui va critiquer cette armée qui est considérée comme l'armée du capital, l'armée de l'ordre, l'armée de la classe dirigeante. Et ça, on va le retrouver très longtemps, pour citer quelqu'un qui est très consensuel et que, me semble-t-il, tout le monde fredonne, Brassens, dans La Mauvaise Réputation, 1952.
Oui, le 14 juillet, je reste dans mon lit.
La musique qui marche pas, cela ne me regarde pas. Il faut quand même se rappeler que cette chanson, en 1952, elle a été censurée par la radiodiffusion française, par la radiodiffusion d'État, sous la présidence de Vincent Auriol. C'est intéressant parce que justement, Vincent Auriol, socialiste, et ça nous ramène à cette question des deux gauches qui se sont, on pourrait donner d'autres exemples, ça me paraît très important, notamment sous le Front Populaire, qui se sont séparées sur la question de ce défilé militaire.
Jean-Luc Cottard, je suis certain qu'il y a de nombreux éléments qui vous font réagir. Je voulais vous poser la question, en 1880, lorsqu'est institué le défilé du 14 juillet, est-ce qu'il y a des débats au sein de l'armée? Est-ce que l'armée accepte d'être soumise d'une certaine manière à la République et de défiler et de se soumettre au pouvoir politique?
Oui, de facto, elle le fait. De facto, elle le fait. Et lorsqu'il y a le changement des emblèmes avec la réception des nouveaux drapeaux qui portent, donc les drapeaux tricolores qui portent la mention République française, c'est accepté. Alors, une partie de l'encadrement et monarchiste mais de facto se soumet. Et Rémi d'Alisson avait raison de souligner que la partie défilée ou la partie ou le cérémonial militaire contribue à souligner la soumission de l'armée au pouvoir politique. C'est un fait. Le chef des armées en France, c'est le président de la République. De la même façon, moi, j'étais très intéressé par ce que disait Madame Bantigny. L'armée représente à la fin du XIXe siècle effectivement l'ordre social, puisque c'est l'armée qui est chargée de maintenir l'ordre jusqu'à ce qu'il y ait des émeutes dans le sud de la France et que l'on décide de spécialiser une partie des troupes au maintien de l'ordre. Ça, c'est la naissance de la gendarmerie mobile. Donc cette soumission est essentielle à avoir à l'esprit. Le défilé, c'est aussi montrer que les armées sont fidèles au pouvoir politique.
Rémi d'Alisson, vous souhaitez prendre la parole, parce qu'on parle de l'armée pour l'instant comme garante de l'ordre, garante, disait Ludivine Boutigny, de l'ordre bourgeois pour une partie de la gauche révolutionnaire, mais c'est aussi l'armée du peuple.
Absolument, c'est une armée de conscription, de service militaire, hein, après les lois de 89 et de 1905. Donc c'est quand même l'armée du peuple, quand bien même elle serait instrumentalisée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus une armée de conscription. C'est une armée professionnelle, donc ça pose un problème par rapport à la symbolique du défilé, par rapport à la nature de ce qu'est devenu l'armée.
Et on va revenir, mais alors quelle est la valeur pour ce citoyen-soldat du défilé du 14 juillet ?
Le citoyen-soldat renvoie un vieux mythe, hein, qui remonte à l'an 2. Il faut bien imaginer que cette armée républicaine, avec les symboles républicains, avec la conscription, elle a participé à la républicanisation du pays, avec l'école, etc. Alors certes, une république bourgeoise, je suis entièrement d'accord, mais elle a été un des moteurs essentiels de la républicanisation d'un pays qui n'était pas républicain dans les années 1870-1880. Donc c'est aussi montrer que...
On est aussi à une époque, pardonnez-moi de vous interrompre, du développement de l'école, par exemple, oui. Dans les années Ferry. Voilà. Est-ce qu'il a été pensé, en 1880, de faire défiler les hussards noirs de la République, les instituteurs?
Alors, dans les années 80, ce qu'on faisait défiler, c'était les
1880.
Les bataillons scolaires. Oui. Alors, c'est une expérience qui a duré que 10 ans, hein, mais c'était quand même symbolique. Hein, c'est-à-dire, préparer la nation, ça c'est Gambetta, hein, préparer la nation à la reconquête des provinces perdues, comme je disais, dans une armée tricolore et qui, entre guillemets, populaire, puisque par la conscription, tout le monde est censé y aller. Quand bien même, les officiers ne sont pas tellement issus des rangs populaires, il y a quand même une promotion républicaine. Donc
d'emblée,
il faut bien
militaire,
comprendre l'articulation entre l'école et l'armée sous la Troisième République, au moins jusqu'à la Grande Guerre.
Oui, mais cela même est contesté, justement, dans une partie de cette gauche qui n'accepte pas la militarisation de la République, oui. Qui n'accepte pas une dimension qui peut faire virer le patriotisme au nationalisme. C'est aussi globalement une gauche qui est très internationaliste, qui est très soucieuse de solidarité entre les peuples, et ça encore on l'a vu sous la Commune de Paris lorsqu'il s'est agi d'abattre la colonne Vendôme, symbole de l'armée napoléonienne, où c'était aussi une armée de conscription, mais il y a vraiment cette volonté d'aller à l'encontre d'un militarisme qui est jugé nationaliste, qui est jugé colonialiste et qui est jugé impérialiste, mais qui est aussi jugé anti-ouvrier, parce que par exemple il y a eu ce traumatisme, non je parlais de la Commune, mais il y a eu aussi ce traumatisme par exemple du 1er mai 1891 lors de la fusillade de Fourmies, cette ville textile du Nord, où voilà, plusieurs ouvrières et ouvriers sont morts sous les balles, justement, de cette armée, quand bien même elle serait une armée de conscription. Ce qui va changer, donc c'est vrai qu'il y a tout un débat d'ailleurs sur armée de métier ou armée de conscription, hein, c'est certain. Dans la gauche, il y a une partie de la gauche, y compris socialiste, qui se reconnaît dans l'idée de la levée en masse. D'ailleurs, le Parti communiste en 1935, lors du défilé du 14 juillet 1935, hein, eux, ils sont à la Bastille, hein, ils sont pas aux Champs-Élysées. Mais ils disent, il y a d'un côté ceux qui sont aux Champs-Élysées, c'est ce que le Parti communiste appelle l'armée de Coblentz, c'est-à-dire l'héritage des émigrés contre-révolutionnaires qui s'étaient réfugiés notamment à l'Est, donc notamment à à Koblenz. Et d'un autre côté, il y a la levée en masse, c'est-à-dire ce qu'indiquait Rémi d'Alisson, à savoir cette armée de conscription. Mais quoi qu'il en soit...
Et Giscard d'Estaing a tenté de faire venir le défilé entre Bastille et République pour revenir vers cet esprit, joindre les deux symboles.
C'était surtout pour faire de la triangulation, c'est-à-dire pour se mettre sur le terrain de ses opposants socialistes, notamment, qu'il a choisi de déplacer le...
Oui, mais il y a toujours eu, c'est vrai, vous avez raison de le souligner, sur cet espace géographique du défilé...
L'espace géographique du Paris révolutionnaire.
D'un côté, alors les Champs-Élysées...
Ou du Paris contre-révolutionnaire, mais...
Et en fait, même si les Champs-Élysées, c'est compliqué, parce que justement, il y a eu le grand banquet des fédérés sur les Champs-Élysées pendant la Révolution, et ça faisait aussi partie de la force révolutionnaire. Mais par exemple, très clairement, ceux qui défilent le 14 juillet 1935 sur les Champs-Élysées, ce sont plutôt les Croix de Feu, donc les ligues qui sont considérées par la gauche comme factieuses, qui sont considérées comme anti-parlementaires, voire anti-républicaines, alors que les forces de gauche défilent quelques 500 000 personnes, peut-être, de Bastille à République.
Jean-Luc Cottard, cette année ont été célébrés les 100 ans des Bleuets qui ont été mis à l'honneur dans le défilé que nous avons vu aujourd'hui, 14 juillet. Qu'est-ce que racontent ces Bleuets sur la mémoire de la guerre et comment est-ce que la première grande guerre, la boucherie de 14-18, a eu un impact sur la valeur, le symbole, le message porté par la parade du 14 juillet?
Vous me posez une question à laquelle je n'ai pas particulièrement réfléchi, mais le bleuet, c'est le symbole des gens qui sont, des soldats qui sont tombés, et c'est le symbole de la mémoire. Ce bleuet est tombé en désuétude et est de nouveau remis en valeur depuis une demi-douzaine d'années. Alors, pourquoi ? Parce que l'armée, d'une part, mais aussi le pouvoir politique, a besoin de montrer qu'il s'occupe du passé et en s'appuyant sur le passé, essaie de promouvoir des idées politiques. C'est le problème que les historiens connaissent bien entre la commémoration et l'histoire.
Alors, Rémi d'Alisson.
C'est très intéressant. La Grande Guerre joue un rôle capital dans le défilé du 14 juillet, puisque la grande fête commémorant la victoire, c'est pas le 11 novembre, tout de suite, c'est le 14 juillet 1919, le 14 juillet dit de la victoire, avec le défilé des soldats victorieux et au premier rang, les gueules cassées. Défilé de Pétain, notamment, etc. Une mise en scène, je dirais, des armes prises aux Allemands. Donc, à partir de ce moment-là, le défilé, c'est aussi raconter une histoire.
C'est aussi réparer la nation.
Renvoyer à des combats, ce qui n'était pas forcément le rôle des premiers défilés au 14 juillet. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que le défilé mute dans les années 30. Il y a des années où il n'y a pas de défilé. Il y a des années où Ludivine parlait de la contestation en 1935. En 1939, on sent qu'on prépare la guerre. Donc, on remet le défilé à l'honneur. Et surtout, par exemple, au moment du centenaire de la Grande Guerre, le défilé du 14 juillet, et non pas du 11 novembre, ce qui aurait été assez logique, hein, est utilisé pour mettre en mémoire, je dirais, la Grande Guerre au moment du centenaire. Hein, donc 2017, si Trump est là, c'est parce qu'on commémore l'entrée en guerre des Américains en 1917.
France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
Vous êtes bien sur France Culture, nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission consacrée ce soir au défilé militaire du 14 juillet avec nos trois invités, Ludivine Bantini, historienne, Rémi d'Alisson, historien également, et Jean-Luc Cottard, colonel à la retraite, mais également chercheur en histoire. Vous parliez à l'instant de 1939, Rémi d'Alisson, on sent que la guerre approche et donc on remobilise le défilé dans un but offensif, dans un but aussi de démonstration de force, dans un moment d'instabilité politique. Alors, sans faire de la comparaison n'étant pas raison, on le sait bien en histoire, est-ce que aujourd'hui la valeur du défilé militaire prend cette signification belliqueuse selon vous?
Alors,
le contexte actuel d'instabilité avec la guerre en Ukraine, évidemment, voilà, je me passe
pour certains dirigeants politiques, oui. Puis le fait qu'on fasse défiler les gens en tenue militaire est un exemple de cette volonté de montrer que la France est prête à faire la guerre. Je ne suis pas convaincu que dans la population, ça soit le cas. Alors, pour une partie de la population, je pense qu'il y a toujours ce côté... on montre qu'on est encore un grand pays, qu'on est fort. Pour les spectateurs anonymes dont vous parliez dans la présentation de l'émission, le défilé, ça fait partie d'un rituel du 14 juillet assez simple, hein, assez basique. Hein. Le défilé, le feu d'artifice, le bal. Donc, je suis pas convaincu que la réception soit aussi militarisée que voudraient les hommes politiques.
Jean-Luc Cottard, comment est-ce que vous analysez ce choix de Loïc Mizon, gouverneur militaire de Paris, de faire défiler les troupes en tenue de combat ?
Alors, d'abord, c'est pas la première fois que ça se produit. Autrefois, le défilé se faisait, comme je le rappelais au début de l'émission, en tenue de combat, puisque c'était l'objectif premier soit de la prise d'armes, soit du défilé. Ensuite, dans les années 70, début des années 80, tout ce qui était uniforme, type uniforme de défilé, avait été complètement banni, et les troupes défilaient effectivement en treillis, uniquement avec leur l'insigne régimentaire sur la poitrine et la fourragère, méritée soit pendant la Première Guerre mondiale, soit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était tout. Là, cette fois-ci, on fait une rupture parce que depuis le début de la professionnalisation, chaque régiment, chaque unité a eu tendance à personnaliser son uniforme avec plus ou moins de rigueur historique, etc., etc. Et donc là, le général Mizon veut montrer que derrière cette parade, eh bien, il y a un objectif militaire, opérationnel. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que ce défilé du 14 juillet est aussi le prétexte à l'entraînement d'un état-major de division pour organiser le défilé comme une opération militaire.
Mais on compare souvent la France, on souligne souvent l'exceptionnalité de la France en matière de défilé militaire par rapport à ses démocraties voisines. Et lorsqu'on regarde dans le monde, effectivement, c'est du côté de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord, peut-être du Venezuela il y a quelques années, que l'on pouvait trouver des parades militaires d'une même type d'ampleur. Est-ce que aujourd'hui, Jean-Luc Cottard, il y a à quoi sert aujourd'hui le défilé militaire français au-delà de la reproduction de cette tradition française?
C'est une forme d'entraînement, c'est l'apprentissage pour la troupe à évoluer dans un groupe. Ce n'est pas du tout facile, donc on apprend en apprenant à défiler ou en faisant une prise d'armes à s'occuper de son voisin.
Donc vous défendez que ça a une fonction pratique avant tout, plus que politique, symbolique, militaire.
Au départ, c'est une fonction pratique. Et au deuxième temps, c'est une fonction politique et c'est une fonction symbolique. C'est extrêmement intéressant de voir comment le général Mizon envisage les choses aujourd'hui.
Vous défendez cette exception française, Ludivine Bantini ?
Je ne défends pas grand-chose. Je constate que, en fait, évidemment que la dimension idéologique, symbolique et politique est très prégnante. Que le 14 juillet, en termes de défilé militaire, dont certains estiment que c'est une confiscation du 14 juillet, hein, certains le disent. Hein, par exemple, il y a un mouvement pour une alternative non violente qui dit voilà, le 14 juillet est confisqué. C'est pas l'armée qui avait pris la Bastille en 1789, c'est le peuple qui l'avait prise à l'armée. En fait, je crois qu'il faut mettre en relation cette cérémonie avec celle qui a lieu de manière quotidienne, tous les soirs, la façon dont la flamme du soldat inconnu est ranimée. Elle est ranimée à la fois par des représentants de l'armée française et des jeunes de tous âges d'ailleurs. Ils tiennent ensemble ce qui sert à ranimer la flamme, ils signent ensemble un livre d'or, ils posent ensemble pour des photographies et tout ça. Et donc les discours, qui sont des discours tenus par des militaires, les propos sont extrêmement volontariste dans l'idée que oui, il s'agit de célébrer les morts pour la patrie, mais justement ça réactive aussi tout un héritage antimilitariste à l'instar d'Anatole France, l'écrivain Anatole France qui disait après la Première Guerre mondiale, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Mais il y a aussi vraiment cette idée dans ces discours qu'il faut se tenir prêt, il faut que ces jeunes, ces enfants, ces adolescents se tiennent prêts à justement mourir pour la France, mourir pour la patrie. Donc c'est pas qu'une cérémonie qui commémorerait le passé blessés et les morts, mais c'est vraiment une cérémonie tournée vers l'avenir, vers l'affrontement, et qu'aujourd'hui on ait vu défiler en effet des hommes et des femmes, pas beaucoup, en tenue de combat, peut expliquer que précisément il y ait encore cette tradition dans une partie de la gauche de remise en cause du défilé militaire associé à la fête nationale. Ça avait été le cas des Verts, qui plusieurs fois, Europe Écologie des Verts, qui plusieurs fois avaient émis des vœux
au Conseil
de Paris pour dire que c'était quelque chose de sinistre et qu'il fallait y mettre fin, que c'était extrêmement coûteux, que c'est nationaliste. Et Eva Joly elle-même avait dit qu'il fallait, en tout cas, sinon supprimer ce défilé, du moins le faire tenir un autre jour que le jour de la fête nationale. Et puis, par exemple, Philippe Poutou, enfin, comme un représentant de ces courants d'une gauche radicale, qui a dit aussi en 2017, lorsqu'il était candidat, que c'était une parade virile, que c'était un étalage de matériel de mort, pour reprendre son expression, que ça entretenait une idéologie chauvine, nationaliste, des aventures militaires qui sont sans contrôle, par exemple sans contrôle parlementaire, sans transparence. Donc tout ce qui est garde à vous, tout ça, enfin c'est ça rejoint aussi toute une critique sur l'armement français, sur les ventes d'armes de la France, parce que c'est aussi une démonstration de la puissance de l'armement français.
Bien sûr, le pays invité, l'Indonésie, est un partenaire commercial militaire.
Et en 2008, Bachar el-Assad avait été dans la tribune officielle, ça avait aussi suscité des contestations, y compris, je pense, dans les rangs de l'armée française elle-même.
Rémi d'Alisson, ça fonctionne encore le défilé comme en tant que pilier républicain en 2025? Est-ce que ça remplit encore la même fonction symbolique qu'elle pouvait remplir après la Première Guerre, par exemple?
Je ne suis pas sûr que ça fonctionne encore. Parce que
c'est que du folklore aujourd'hui auquel on a assisté?
Un peu. Parce qu'il y a le phénomène des générations. Je pense que quand on regarde ceux qui vont voir le défilé ou qui le regardent à la télévision, c'est généralement des gens assez âgés. Ça renvoie une nostalgie aussi, je pense. La nostalgie d'une France mythifiée d'avant, où tout était beaucoup plus simple. Donc je ne suis pas convaincu que ça joue encore. Je pense que ça reste pour la majorité de la population, notamment si on quitte l'Île-de-France, si on quitte Paris. Dans les régions, c'est préparé, c'est annoncé par la presse locale. Le jour du défilé, il y a le préfet, il y a le sous-préfet, il y a les corps constitués. Et il y a quand même beaucoup de gens qui viennent parce que c'est juste un de ces trois temps dont je parlais. Mais peut-être que la signification n'est plus celle qu'elle était du temps de l'école de Jules Ferry, justement.
Jean-Luc Cotin.
Alors moi, je suis assez d'accord sur les propos et de Ludivine Bantini et de Rémi d'Alisson, notamment sur le risque de confiscation ou sur l'image de confiscation du 14 juillet par les armées. Et c'est peut-être pourquoi il a été décidé d'introduire les défilés des commissaires de police ou de l'administration pénitentiaire qui ne partent jamais au combat en défilant, puisque c'est pas leur objectif et c'est pas leur métier. Et c'est très intéressant de voir comment cette question sur la tenue combat peut se poser éventuellement au commissaire de police ou à l'administration pénitentiaire.
On voit par exemple en Norvège, à la fête nationale norvégienne, on fait défiler les enfants, les associations et les bacheliers. Est-ce que, Jean-Luc Cotard, vous pensez qu'on pourrait abandonner, en tout cas, offrir le 14 juillet aux enfants, aux bacheliers, aux associations, et peut-être les militaires auraient d'autres choses à faire, certainement, que de préparer tous les ans ce 14 juillet, qui demande beaucoup de préparation,
Vous n'êtes pas sans savoir que les militaires, que chacune des armées possède la responsabilité de lycées militaires, et que des lycées militaires défilent régulièrement sur les Champs-Élysées.
Bien sûr, je ne parlais pas des étudiants militaires,
l'idée d'avoir des bacheliers, vous voyez qu'à partir du moment où on comprend que ce 14 juillet est un événement politique, eh bien c'est aux politiques de décider si on doit insister sur le côté militaire, sur le côté avenir, avec la recherche, avec les bacheliers. Vous voyez, là, si on envisage bien ça sous un angle d'événement politique et éventuellement festif pour rejoindre les travaux de Rémi d'Alisson, eh bien, on voit qu'il y a toute une série de possibilités qui peuvent apparaître, mais au moins, il faudrait-il pouvoir discuter de ce sujet-là.
Rémi d'Alisson, pourquoi pas les infirmiers, les soignants, mais les médecins, les premières lignes de la Covid?
Oui, mais je suis très content que vous ayez évoqué les associations, parce que c'est le troisième pilier qui a républicanisé le pays sous la Troisième République. Et je tiens à dire qu'il n'y a pas que le défilé militaire, enfin, qu'il n'y avait pas que le défilé militaire. Il y avait aussi le défilé des associations, des clubs sportifs, des sociétés colombophiles. Donc il y avait aussi un défilé de la société civile dans lequel il y avait les écoles, auquel s'ajoutait un défilé militaire. Mais il n'y a jamais eu uniquement le défilé militaire. Il y a eu un moment où la société civile a été représentée à l'égal de la société militaire dans le défilé du 14 juillet. Et c'est peut-être ça qui a disparu aujourd'hui pour ne laisser place, effectivement, qu'aux militaires en termes de défilé.
Est-ce qu'on peut imaginer une évolution des formes de commémoration, Ludivine Bantini ?
Certainement, puisque comme vous l'avez mentionné ailleurs, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, Eva Joly, qui avait suscité un véritable tollé, mais elle avait dit « Oui, mais il faudrait plutôt montrer des citoyennes et des citoyens, des travailleuses, des travers, voilà. C'était ça qu'elle avait proposé. Et en fait, par exemple, il y a 2 ans, en 2023, on avait vu des jeunes défiler lors du 14 juillet, lors du défilé militaire. C'était des jeunes enrôlés sous le signe du SNU, du Service National Universel, qui a été très contesté. Et finalement, voilà, il y a eu une remise en cause de ce SNU. Mais M. Cottard disait à juste raison que c'est une question très politique, tout ça. Et d'ailleurs, la cérémonie, elle est profondément idéologique et politique. Et on le voit aussi à la façon dont elle est contestée lorsqu'il y a des huées et elles se sont multipliées, ces huées à l'égard
des gilets jaunes qui avaient hué le défilé.
Oui, mais même en 2023, hein, le 14 juillet 2023, par exemple, Emmanuel Macron avait été hué. C'était le moment où il y avait eu une énorme contestation de 3 millions de personnes dans les rues lors de la mobilisation contre la réforme des retraites. Et donc, le 14 juillet est aussi l'occasion de manifester une opposition au chef de l'État, qui est aussi le chef des armées. Et donc, c'est à ce double titre qu'il est hué et contesté. Et voilà.
Rémi Dalisson, vous souhaitez réagir.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ludivine. Il ne faut jamais oublier que toutes les fêtes nationales sont contestées, dès leur création, et y compris sous Vichy. Donc, le 14 juillet a été contesté, le défilé a été contesté, notamment au moment de la guerre d'Algérie, notamment au moment de la guerre d'Indochine. Donc, la fête publique a aussi cette fonction de servir à afficher des opinions différentes sous une autre forme que le vote qui ne résume pas l'action politique en France.
Jean-Luc Cottard, vous souhaitez également réagir rapidement.
Oui. Je pense qu'il faut faire attention à éviter une trop grande sacralisation des cérémonies et que si on sacralise trop, eh bien on arrive à une sclérose. Donc il faut réfléchir à tout ce qui peut évoluer de façon à ce que le corps social ne se crispe pas contre lui-même et qu'il y ait véritablement une dynamique plutôt qu'une sclérose.
Alors au-delà du défilé, de la question du défilé du 14 juillet, c'est l'horizon de la guerre qui est revenu dans les esprits, qui est revenu dans les discours politiques. Jean-Luc Cottard, est-ce que le défilé va prendre une autre tournure dans les années à venir? Est-ce que en fait on prépare également les esprits à la guerre?
Ben, visiblement, ce que le général Mizon a proposé avec cette fameuse tenue de combat pour défiler, est un signal politique pour dire « attention, les temps sont dangereux ». Alors, on peut être d'accord, ne pas être d'accord, mais enfin, quand on regarde l'environnement international, on comprend qu'il y a quelque chose à faire. Mais est-ce que c'est aux militaires de donner le message politique, ou est-ce que c'est le militaire qui contribue au message politique? Ça, je ne sais pas.
Ludivine Bantini, on voit le soutien à l'Ukraine presque unanime dans le spectre économique. On en a dit plusieurs fois que nous devions entrer dans une économie de guerre, dans un esprit de guerre. C'est cela aussi qui passe à travers le défilé, son acceptation, l'absence de débat qu'il y a autour du défilé du 14 juillet.
Oui, enfin, il y a du débat. D'ailleurs, cette émission en est la preuve. Et justement, il y a aussi toujours cette opposition à l'idée d'une colonisation des esprits par le vocable de la guerre, du nous sommes en guerre, du réarmement, y compris quand
une contrainte du réel sur les idéologies.
Oui, enfin à géométrie variable. Parce que vous parlez de l'Ukraine, et puis bon, c'est un autre débat, mais c'est un débat géopolitique et éthique d'une immense importance. On a à juste raison parlé beaucoup de l'Ukraine, mais beaucoup moins de Gaza, en tant que c'est aussi un enjeu politique et géopolitique absolument fondamental actuellement, à l'heure où des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont reconnus comme tels. Moi, il y a aussi une dernière petite chose que je voudrais dire, parce qu'on a beaucoup parlé de rapport entre histoire et mémoire. et donc notamment une mémoire occultée. Le 14 juillet 1953, puisque Rémi d'Alisson parlait de l'Algérie, de la dimension coloniale et décoloniale, le 14 juillet 1953, il y a eu plusieurs morts des Algériens, notamment, et aussi des militants syndicalistes qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Et on en parle très peu, de ces balles du 14 juillet, mais balles avec deux LES, selon le terme du cinéaste Daniel Kupferstein, qui a fait un très beau documentaire sur ce 14 juillet 1953. Et ça fait partie justement de ces occultations, de ces oublis. Et ça me semble très symbolique, parce que là, il y avait une sorte d'appropriation du 14 juillet dans une perspective émancipatrice, de droit, de rapport au droit, à la liberté, comme ça a été beaucoup souligné. Et d'un autre côté, une répression vraiment sanglante et meurtrière.
Rémi d'Alisson.
Moi, je pense aussi que Ludivine a tout à fait raison, c'est quelque chose d'assez scandaleux qu'on oublie des événements comme ça. Je pense qu'il y a des tas de pays où on les oublierait pas, mais on a un rapport assez spécial avec la mémoire coloniale en France. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense aussi que le défilé, ça renvoie à l'imaginaire.
On parle aujourd'hui, il y a des messages politiques qui appellent à la retour à la conscription, par exemple.
Oui, notamment de gens qui n'ont pas fait leur service militaire, mais je ne citerai personne. Donc, alors, faudrait savoir ce qu'est la conscription, ce que serait une armée populaire, ce que serait... Voilà, il y a des tas de débats. Mais justement, l'imaginaire, c'est ça. C'est l'imaginaire de l'armée de conscription, mais aussi l'imaginaire du fait que la France serait restée un grand pays, ce qu'elle n'est plus. Mais là, en faisant défiler les armées, je pense que pour plein de gens, ça reste un marqueur d'un pays puissant qui pourrait intervenir dans le monde, qui intervient via les OPEX, qui défile le jour du 14 juillet. Donc voilà, faut pas oublier la dimension d'imaginaire qui explique que peut-être dans les populations, il n'y ait pas tous ces débats que nous avons aujourd'hui.
Et ce qui explique peut-être, est-ce que selon vous, on ne pourrait pas se passer d'un 14 juillet avec ce défilé militaire? Parce qu'il habite, il est trop installé dans nos représentations imaginaires pour qu'on puisse s'en passer.
Oui. J'ai beaucoup travaillé dans les préfectures, dans les archives locales pour mes travaux. Et quand même, l'affluence de ces jours-là est quand même assez significative jusqu'à nos jours. Et donc, parce que ça reste un marqueur d'imaginaire.
Je suis sûre que si on en faisait autre chose, il y aurait aussi beaucoup de gens.
Peut-être.
Des balles, quelque chose de plus joyeux et de moins mortifère.
Ou si on venait au défilé de la société civile qui ont un peu disparu.
Jean-Luc Cottard, le mot de la fin.
Eh bien, moi, je suis intéressé par la forme du défilé français et je fais la comparaison avec le défilé russe. Le défilé russe, ce sont des colonnes de soldats qui sont par 12 et qui amènent la masse. Et c'est une masse extrêmement forte qui permet d'imaginer comment l'armée russe envoie ses soldats au combat. L'armée française pourrait travailler un peu différemment. Elle préfère conserver la façon de travailler du XVIIIe siècle. C'est une forme de nostalgie.
D'accord, donc un défilé nostalgique, un défilé dont on pourrait se passer, et peut-être un défilé qui marque en tout cas nos imaginaires et qui a marqué cette émission. Merci à vous trois d'être venus en débattre. Ludivine Bantigny, je rappelle que vous êtes historienne à l'Université de Rouen, spécialiste des mouvements sociaux, des soulèvements populaires et des révolutions. Et vous avez publié un livre sur l'histoire des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. C'était
Point d'interrogation
à la découverte en 2020. Rémi d'Alisson, vous merci également, historien, professeur Université Mérite à Rouen, et vous aviez publié « Célébrer la nation, les fêtes nationales en France de 1789 à nos jours ». Et enfin, Jean-Luc Cottard, colonel à la retraite, également chercheur en histoire et membre du comité de la rédaction de la revue « Infliction ». Cette émission a été préparée ce soir par Maud Yaïch et Alice Chavarin, Aloïse Guérin à la programmation. Merci à toute l'équipe, Théa Corlaire, Paul Venester et Vivien Lecuivre à la réalisation et à la technique ce soir. C'était l'ami Félix Delacour. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même studio, pour une autre question du soir. Bonne soirée sur France Culture.